Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Salut Jeff. Alors,
salut Geneviève.
Dis-moi, dans cette actualité absolument réjouissante, que nous as-tu sélectionné comme sujet ?
Eh ben, j'avais envie de parler d'Israël aujourd'hui, parce que depuis le mois de janvier, les villes israéliennes vivent chaque week-end au rythme de manifestations de plus en plus imposantes de la part de citoyens qui protestent contre la réforme du système judiciaire que tente d'imposer le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Jugée antidémocratique, cette réforme risquerait de faire basculer Israël dans un régime autocratique et nationaliste.
Ok, mais alors qu'est-ce qu'elle dit cette réforme ?
Alors la séparation des pouvoirs et les droits de l'homme sont protégés par des lois fondamentales en Israël. Dans cette organisation, la Cour suprême tient un rôle prépondérant car elle veille à ce que les travaux de la Knesset et de l'exécutif respectent les lois fondamentales. C'est finalement l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Or, le projet de refonte radicale du système judiciaire présenté par Yariv Levin, le ministre de la Justice, est fondé sur le principe selon lequel le peuple accorde à la majorité élue la légitimité de gouverner seul, sans l'interférence des magistrats qui, eux, ne sont pas issus des urnes. Ainsi, la Knesset pourra, à la majorité, annuler une décision de la Cour suprême jugeant une loi inconstitutionnelle. Un texte voté par la Knesset ne pourra donc plus être annulé par un juge. De plus, le gouvernement devrait pouvoir nommer les membres de cette Cour suprême et les autres juges également, qui lui seront forcément fidèles, hein, car redevables. On peut noter ici la stratégie de Netanyahou, inculpé dans une affaire de corruption, hein, qui va peut-être se retrouver face à des juges qu'il a lui-même nommés. On peut donc s'interroger sur la validité du résultat d'un tel procès. Au final, Benjamin Netanyahou veut donner tout pouvoir à son gouvernement, qui pourra alors tout contrôler. L'équilibre des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire aura donc vécu. Israël ne sera alors plus une démocratie, mais une dictature. Et le gouvernement ne protégera que ceux qui le soutiendront.
Et quels sont les courants politiques porteurs de cette réforme ?
Le gouvernement établi par Netanyahou en décembre dernier regroupe des personnalités politiques issues du Likoud, son parti, hein, d'accord ? La droite classique, mais aussi de deux partis ultra-orthodoxes, Chass et judaïsme, unifiés de la Torah, et de trois formations d'extrême droite, sionisme religieux, force juive et Noam. Ce gouvernement est donc le plus à droite de l'histoire d'Israël et bénéficie du soutien de la Knesset, constituée de 64 députés issus des partis de la coalition gouvernementale sur 120.
Ok, donc on a bien compris que pour la réforme judiciaire, il n'y aurait plus vraiment de respect de la Constitution, de séparation de pouvoir. Et quel est-il alors ce projet de coalition ?
Alors là, on est en présence d'un projet extrême, puisque ce nouveau gouvernement souhaite instaurer un régime fondé sur un nationalisme juif autoritaire, religieux, en totale rupture avec la vision de la démocratie qu'avaient les pères fondateurs du sionisme, comme Théodore Herzl, par exemple, ou David Ben-Gurion.
D'accord. Et les risques de cette réforme vont bien au-delà, j'imagine, qu'une simple crise institutionnelle.
Ouais, exactement. Hein. Le gouvernement de Netanyahou aura les mains libres pour briser l'état de droit, mettre au pas l'opposition de gauche et imposer le nationalisme juif comme identité nationale. D'ailleurs, la volonté d'imposer le nationalisme juif est en train de passer par la prise en main de la jeunesse. Il a ainsi été décidé de faire tomber l'enseignement public religieux dans l'escarcelle du parti sioniste religieux. De plus, les 823 000 élèves de l'enseignement séculier auront droit à des cours renforcés de Talmud, selon un texte de loi réclamé par les ultra-orthodoxes.
Bien, bien. Bah, écoute, j'imagine qu'avec un gouvernement aussi porté sur le nationalisme juif, la situation des Palestiniens va bien entendu encore s'améliorer.
Mais effectivement, ce gouvernement très à droite est en train de poursuivre l'annexion de la Cisjordanie et désire neutraliser l'autorité palestinienne, qui est d'ailleurs qualifiée d'entité terroriste. D'ailleurs, depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a déjà coûté la vie à 84 Palestiniens et un policier israélien. En outre, les constructions dans les colonies se développent de plus en plus, de même que les démolitions de bâtiments et confiscations de terres en Cisjordanie.
Alors, comment tu vois les choses ? On doit s'attendre à une annexion totale de la Cisjordanie, une instauration formelle de l'apartheid ?
Je pense pas, car les pressions internationales dissuaderont probablement Netanyahou d'aller trop loin. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on peut interpréter la visite express d'Anthony Blinken fin janvier. Mm-hmm. Le secrétaire d'État de Joe Biden a en effet rencontré à la fois Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, pour tenter de calmer les tensions et mettre la pression sur le Premier ministre israélien, qui ne peut se passer de l'aide militaire, diplomatique et financière fournie par Washington. Enfin, on peut terminer sur le nombre croissant de personnes issues de la société civile qui se politisent contre cette réforme, voire même des membres de Tsahal qui récemment, Tsahal c'est l'armée israélienne, qui récemment expriment leurs doutes quant au fait de continuer à servir le projet du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Voilà. Ok, eh ben, merci pour la clarté de ton focus, Jeff.
De rien, merci.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Galade.